Voilà, un grand bonjour. Je suis content de partager la parole de Dieu avec vous pour vous encourager, pour vous bénir et j'espère pour vous nourrir ce matin. Comme disait Jonas, d'habitude, je partage avec vous des grands axes et des fondements de la parole de Dieu, des bases du christianisme. Aujourd'hui, je vais simplement partager quelques aspects de la vie de David, du roi David. David a eu une vie tourmentée, loin d'être irréprochable. La vie de David n'a pas été simple, elle n'a pas été facile. Elle a été faite de magnifiques victoires, mais de tristes et de lamentables péchés aussi, mais aussi de vraies et de profondes repentances. David, en hébreu, veut dire « bien-aimé ». Il portait bien son nom. Dieu dit lui-même de David « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. » On connaît bien cela, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui fera toute ma volonté. Alors nous allons simplement nous arrêter sur quelques moments particuliers de la vie de David. J'ai choisi ce moment. Il est hors de question de traiter de toute la vie de David. Hein. Voilà, ok. Alors, je vous ai mis tout d'abord David, voint du Saint-Esprit par le prophète Samuel. On va lire donc quelques passages. Et Isaïe, à ne pas confondre avec Ésaïe le prophète, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi ceci. Et Samuel dit à Isaïe, sans cela, tous les jeunes gens, et il dit, il en reste encore un, le plus jeune. Et voici, il paie le menu bétail. Et Samuel dit à Isaïe, envoie et fais-le amener, car nous ne nous placerons point autour de la table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. Et il envoya, il le fit venir. Or, il avait le teint rosé, avec de beaux yeux et beau de visage. Et l'Éternel dit, lève-toi, oint-le, car c'est celui-là qui sera roi sur Israël. Et Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là et dans la suite. C'est-à-dire que David devient alors le temple du Saint-Esprit, ce qui n'était pas fréquent dans l'Ancien Testament. Hein. Il est né de nouveau par le Saint-Esprit et en même temps, il est boin du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Et il va recevoir un appel sur sa vie, comme quoi il sera roi sur tout le peuple d'Israël. Nous savons qu'il ne sera pas tout de suite roi sur Israël. Mais Dieu va le former, va former son cœur, va lui apprendre à écouter le Saint-Esprit et à remporter des victoires. En fait, David, à l'école de Dieu, attendra environ 17 ans. C'est un peu difficile à dire, 17 ans, pour être établi roi sur tout Israël. Il régnera sur tout Israël pendant 33 ans, c'est-à-dire environ le double de temps qu'avait pris sa formation. Cette première onction sera un temps de formation, de mise à l'épreuve, un temps de construction pour préparer d'autres victoires et d'autres choses auxquelles il sera appelé. Cette première onction, c'est pour David lui-même, pour sa propre vie, pour son propre service au jour le jour, pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis. Cette onction va couler sur ses collaborateurs, ses compagnons, mais déjà aussi, bien sûr, pour bénir et pour aider tout Israël, tout le peuple de Dieu. Alors, une chose qui m'a touché dans l'histoire de David, voilà, formidable, ça marche, c'est que David aimait les brebis de son père. Le troupeau, c'était pas à lui, c'était à son père. Et il aimait les brebis de son père. Le premier livre de Samuel nous dit, et David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le menu bétail de ton père, de son père. Et quand le lion ou l'ours vint enlever un mouton du troupeau, je courus après lui, je le frappai et j'arrachai le mouton de sa gueule. David aime les brebis de son père. Il aime le troupeau de son père. Il aime tellement les troupeaux de son père qu'il en oublie de ne penser qu'à son propre appel ou bien de protéger sa propre vie. Il n'hésite pas à risquer sa vie, à donner sa vie pour sauver une brebis, pour sauver un agneau, pour sauver un mouton. Lorsque quelqu'un est appelé à un ministère ou à un service quelconque dans le peuple de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, lorsque quelqu'un est selon le cœur de Dieu, une chose le caractérise obligatoirement. Il aime Dieu et il aime le peuple de Dieu. Ça, c'est caractéristique. Il aime le peuple de Dieu. David aimait Dieu et il chantait Dieu continuellement. Il aimait le peuple de Dieu et il offrait et donnait sa vie pour le peuple de Dieu. Lorsque Goliath va se pointer, on verra tout à l'heure, il y a surtout deux choses qui offensent et qui scandalisent David. C'est que Goliath méprise et critique Dieu et surtout, il outrage, méprise et critique le peuple de Dieu. Et cela, David ne peut pas le supporter. Tu te crois très spirituel, n'est-ce pas? Et puis tu vois 10 ou 20 choses qui ne vont pas dans l'église ici, dans la CBM. Ok, très bien. Alors je veux te dire une chose, je connais bien l'église. Je la connais depuis des décennies. Alors je veux te dire une chose, personnellement, j'en vois au moins plus de 100 choses qui ne vont pas dans cette église. Vous avez le droit de dire alléluia, hein? Voilà, ok. Mais je vois aussi plus de 10 000 choses formidables qui sont dans cette église. Et j'essaye de voir les choses dans l'église comme Dieu les voit, avec l'amour que Dieu a pour son église, pour son peuple. Nous sommes en pleine guerre spirituelle. David savait aller faire des campagnes à l'extérieur, il savait mener des combats pour vaincre l'ennemi du peuple de Dieu, mais il savait plonger la louange, les gens qui étaient autour de lui, dans la louange, dans l'adoration. Il savait mettre la louange et l'adoration au milieu du peuple de Dieu, en sorte que Dieu était toujours à la première place, et non pas ce qui n'allait pas, et non pas les râles, et non pas les mécontentements. En sorte que les puissances spirituelles étaient repoussées, balayées, maintenues sur toute la région que Dieu avait donnée à son peuple. Lorsque, par exemple, Jonas parle de louange, d'adoration, de prière, bien sûr, mais aussi de louange, tout ça. Pourquoi il y a des soirées Gloria? Pourquoi on parle beaucoup de louange, etc. C'est une façon de faire descendre sur le peuple de Dieu, mais de faire descendre sur une région une présence de Dieu en sorte que les puissances spirituelles de méchanceté soient comme balayées, sinon maintenues. D'accord? Nous sommes en guerre spirituelle. Cette Église a commencé par le jeûne et par la prière, par des semaines de jeûne et de prière. Elle a continué par l'évangélisation, dans les rues, dans les parcs, dans les squares, dans les porte-à-porte. Et mon épouse avait un ventre comme le tien. Elle portait les grossesses très en pointe, n'est-ce pas, hein? Et on avait un bébé et il était dans le landau. Et puis on avait un autre bébé qui était dans le ventre de mon épouse. Et puis dandinant, eh bien, on allait dans les squares et dans les rues avec mon épouse pour annoncer Jésus, n'est-ce pas? L'Église a commencé comme cela. Nous avons évangélisé dans les rues de Belfort, de Montbéliard, d'Héricourt, de Lure, de Giromagny. On a fait toutes les maisons de Giromagny. On a fait les maisons de Del. On a fait les maisons de Ronchamp, de Clairegoutte, etc., etc., etc. Et on a annoncé l'Évangile. Pour que cette terre urbaine soit impactée par la puissance de Dieu, donc la CBM a mis en place toute une louange, toute une adoration qui, comme je viens de le dire, honore Dieu et qui écrase, qui paralyse les puissances des ténèbres. Ça fait partie de l'ADN de notre Église. Alléluia. Oui, Dieu est magnifique et époustouflant, et l'épouse de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, est formidable et glorieuse. Alléluia. Et sans cesse en amélioration, vous êtes d'accord? Ok, voilà. David savait se préoccuper et prendre soin du peuple de Dieu. Il y a une chose qui m'a étonné, je n'avais pas vu ça dans la Bible encore, il y a une chose qui m'a étonné. Lorsque son papa, son père, Isaïe donc, il envoie le jeune David pour porter du ravitaillement, des sandwichs et des hot dogs à ses frères qui sont sur le champ de bataille face aux Philistins et face à Goliath. Donc, David, il va, il obéit à son papa. Mais il ne laisse pas le troupeau comme ça. Il confie son troupeau de menu bétail à un gardien qui va prendre soin du troupeau pendant que David va porter les sandwichs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours qui porte le peuple de Dieu sur son cœur et qui aime le peuple de Dieu. Un serviteur prend soin du peuple de Dieu. Ok. Donc, ensuite, victoire sur le lion et sur l'ours. Donc, on reprend ce texte dans Samuel 17. Et David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le menu bétail de son père, et quand le lion ou l'ours vint enlever un mouton du troupeau, je courus après lui, et je le frappai, et l'arrachai le mouton de sa gueule. Et il se dressa contre moi, je le saisis par sa barbe, et je le frappai et le tuai. Ton serviteur a frappé, et le lion, et l'ours. » Donc, avant de remporter de grandes victoires contre Goliath, ou contre les Philistins, contre les Amalékites, contre les Guéchuriens et contre tant d'autres, David dut apprendre à combattre et dut apprendre à remporter des victoires pour pouvoir ensuite en remporter de plus grandes. David aimait le troupeau de son père, il aimait les brebis de son père et il n'hésitait pas, comme on l'a dit, à risquer sa vie, à offrir sa vie, à donner sa vie pour aider et pour bénir le troupeau de Dieu. Avant de rentrer pleinement dans ton appel, avant de rentrer pleinement dans les services successifs dans lesquels Dieu t'appelle, avant de remporter les grandes victoires que Dieu t'appelle à remporter, Dieu va t'emmener sur des champs de bataille qui te sont propres. Dieu va te mettre face à des batailles et des combats déjà importants pour toi et pour le peuple de Dieu, mais surtout pour te préparer spirituellement, pour te muscler spirituellement, pour te préparer pour d'autres combats et d'autres victoires qui, elles, seront alors beaucoup plus impactantes et plus importantes. Il y a des batailles et des victoires que tu ne remporteras jamais. Il y a des appels et des services dans lesquels tu ne pourras jamais rentrer si tu n'aimes pas le peuple de Dieu, si tu n'es pas émerveillé par Dieu et si tu ne remportes pas de façon catégorique des combats premiers et formateurs que Dieu a mis devant toi et qui sont des victoires absolument à ta portée. Je ne vais pas trop parler de moi, mais dans ma vie, mes premiers combats que j'ai réglés de façon radicale ont été tellement importants qu'ils m'ont enseigné pour toute ma vie. Parce que dans ces premiers combats, j'ai vécu de grands principes. Quels sont les combats que toi, Dieu te demande à toi d'affronter aujourd'hui et qu'il t'ordonne absolument de remporter, car en Christ, il t'en a donné les moyens. Il y a des combats que Dieu te demande de remporter afin de pouvoir en remporter d'autres plus importants pour toi et pour le peuple de Dieu et afin de pouvoir rentrer dans les services successifs auxquels Dieu t'appelle et pour pouvoir un jour rentrer pleinement dans le service ou le ministère auquel Dieu t'appelle. Est-ce que c'est un problème de tabac que Dieu te demande de régler? Est-ce que c'est un problème d'alcool? Est-ce que c'est un problème de pornographie, de violence, de colère, de médisance et de critique, de peur, de fausses croyances et de faux enseignements et de superstitions? Sois d'abord radical face à ces batailles-là et tu pourras alors remporter d'autres batailles. Il y a des batailles que tu peux remporter en une journée et encore en moins que ça. Et si tu ne le fais pas, des années après, Dieu te demandera toujours: le lion là, t'en fais quoi? Le diable ne peut pas grand-chose face à un chrétien décidé et radical. Nous servons et honorons un grand Dieu magnifique et glorieux face à un petit diable, minuscule, grotesque et qui a une grande gueule. J'ai une question. Quel est ton lion? Quel est ton ours? Si David n'avait pas remporté de victoire sur le lion ou sur l'ours, si c'était débiné, faufilé, s'il avait zigzagué, s'il ne s'était pas entraîné sur le lion et sur l'ours, il n'aurait jamais remporté de victoire sur Goliath et il y a plein d'autres victoires qu'il n'aurait jamais remportées. Toi, peut-être que tu es fixé sur Goliath, peut-être que tu es fixé sur les Philistins ou les Kenyans ou les Alsaciens. Mais Dieu te dit d'abord, tue l'ours, tue le lion. quelles sont les batailles dans ta vie qui semblent bloquées et ne pas porter leurs fruits parce qu'elles attendent des victoires premières, des victoires qui préparent le terrain. Tu attends peut-être de la réussite dans des études, un métier approprié, une stabilité financière, une voiture, une maison, la rencontre d'un conjoint, l'amour et l'unité dans la famille, l'entrée dans un service pour Dieu, l'entrée dans un authentique ministère. Peut-être même que tu devrais déjà y être. Ma question, c'est quel est ton lion ? Avant de rentrer pleinement dans ton appel, avant de rentrer pleinement dans les services successifs dans lesquels Dieu t'appelle, avant d'en remporter les grandes victoires que Dieu t'appelle à remporter, Dieu va t'emmener sur des champs de bataille qui te sont propres, qui sont les tiens. Et Dieu va te mettre face à des batailles et des combats déjà importants pour toi et pour le peuple de Dieu, mais surtout pour te préparer, t'entraîner, te muscler spirituellement pour te préparer pour d'autres combats et pour d'autres victoires. Il y a des batailles et des victoires que tu ne remporteras jamais. Il y a des appels et des services dans lesquels tu ne pourras jamais rentrer si tu ne remportes pas d'abord, de façon catégorique, des combats premiers et formateurs que Dieu a mis devant toi et qui sont des victoires absolument à ta portée. Quels sont les combats que Dieu te demande d'affronter aujourd'hui ? Alors, victoire sur Goliath. On relit un petit peu. David dit à Saül que le cœur ne défaille à personne à cause de lui. Ton serviteur ira et combattra avec ce Philistin. Et Saül dit à David, tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le menu bétail de son père, et quand le lion ou l'ours vint enlever un mouton du troupeau, je courus après lui, je le frappai et j'arrachai le mouton de sa gueule. Il se dressa contre moi et je le saisis par sa barbe et je le frappai et le tuai. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Vous voyez, ce qui touchait David, c'est que ce gars-là avait insulté le peuple de Dieu. Il s'était moqué du peuple de Dieu. Et David dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, que Dieu soit avec toi. Fort de l'expérience de ses premiers combats et fortifié par ses premières victoires, David est rempli de foi pour aller vers de plus grandes batailles et de plus grandes victoires, et pour aller affronter Goliath. Jésus recommandait à ses disciples de faire preuve de réflexion, d'honnêteté, et de lucidité, et de bien calculer la dépense, de bien calculer leur réelle consécration à ses disciples, leurs possibilités et leur niveau spirituel, avant de se lancer dans de nouveaux combats. Je vous ai mis, par exemple, un verset. On ne va pas le lire, quelques versets là, où Jésus dit ceci, si vous voulez bâtir une tour, quelqu'un qui veut bâtir une tour, avant de bâtir la tour, de commencer à bâtir, tu réfléchis sur la dépense, combien ça va te coûter, etc. Hein? Tu réfléchis sur, en fonction de la tour, comment creuser les fondations, etc. Ça, je dis ça pour Pierre, qui est en train de me construire une maison, là. Voilà. OK? Bon, OK. Hein? Ou bien, Jésus dit, voilà, lorsqu'un roi part à la guerre, eh bien, il réfléchit si avec son armée, il peut faire face à une autre armée, étant donné le nombre de ses hommes. Voilà. Hein. Et avant que David affronte Goliath, nous apprenons une grande leçon de la part de Dieu. Je vous ai mis ce passage de 1 Samuel. Et Saül revêtit David de ses vêtements. Il lui mit un casque d'airain sur la tête, le revêtit d'une cotte de mailles. Et David saignit son épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il ne l'avait pas essayé. Et David dit à Saül, « Je ne puis marcher avec ces choses, car je ne l'ai jamais essayé. » Et David les ôta de dessus lui. Et là, j'aimerais dire quelque chose. On peut prier pour moi. on peut me bénir. Mais c'est moi qui suis responsable de mes défaites et de mes victoires. Je peux être encouragé par les autres, par ce que vivent les autres. Je peux être encouragé par les expériences des autres et par les victoires des autres. Mais pour une victoire personnelle, je dois me battre avec mes propres armes et ma propre armure et mes propres forces en Christ. Je ne me bats pas avec les forces en Christ de quelqu'un d'autre. Parfois, exceptionnellement, il peut y avoir des situations comme ça, mais ça ne peut être que provisoire. Et pour être vainqueur des batailles que Dieu me propose à moi, je dois y aller avec là où j'en suis en Christ, bien sûr. Je dois m'appuyer sur mon expérience personnelle, sur mes connaissances personnelles, sur mes victoires personnelles, sur ma propre foi et sur ma propre relation avec Dieu. Pas sur la foi de quelqu'un d'autre, ni sur les forces de quelqu'un d'autre, ni sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors, Oui, ok, très bien. Alors, donc le voilà, donc notre brave David face à Goliath. Hein? Ok. On va lire cela. David prit son bâton en sa main et se choisit du torrent 5 pierres lisses. Il les mit dans le sac de berger qu'il avait dans la poche. Il avait sa fronde à la main et s'approcha du Philistin. Alors, notre but, ce n'est pas d'expliquer en long et en large la victoire sur Goliath. Hein? C'est simplement de partager quelques principes sur la vie de David. Et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille est à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Et il arriva que comme le Philistin se levait et s'avançait et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Et David mit sa main à son sac, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde et flac ! Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans son front et il tomba sur sa face contre terre. Voilà. Dans ce passage, David, comme dans bien d'autres passages, il symbolise et il typifie Jésus. Le torrent symbolise le Saint-Esprit, les eaux vives du Saint-Esprit, les eaux vivifiantes du Saint-Esprit qui nettoient et qui polissent les pierres. Les cinq pierres représentent les cinq ministères. Et le sac de berger, le sac du berger, c'est le sac du bon berger, ça représente l'église de Jésus-Christ. Et puis, la fronde symbolise l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Et David est déjà, là vous avez tout un résumé de l'évangile et des combats spirituels, hein, et David est vraiment un jeune homme plein de foi et sensible du Saint-Esprit. Or bien sûr, il prend cinq pierres, hein. Ça sous-entend les cinq ministères qui vont catapulter le monde des ténèbres, mais il prend cinq pierres. Alors, il y en a une, bien sûr, pour Goliath, ça, il va la taper tout de suite, hein. Et puis, il y en a quatre pour les quatre enfants de Goliath. Goliath a quatre enfants, quatre fils. Donc, il y a une pierre pour chaque fils. Donc, David a déjà tout préparé dans les combats spirituels, hein. Donc, voilà. Le cinq, c'est le chiffre qui parle de la grâce et de la grâce de Dieu au sein de l'œuvre de Dieu. Mais le chiffre 5, ce n'est pas le chiffre 4 qui est un domaine de perfection, les quatre évangiles. Hein. Le chiffre 5, ça parle aussi de la faiblesse et des manquements de l'être humain au milieu de la grâce de Dieu. Bah oui, les cinq ministères ne sont pas parfaits. Hein. Et puis, voilà, les autres non plus. Avec sa fronde, David va frapper Goliath en pleine tête et le caillou va rentrer dans sa tête. La tête siège des pensées et des raisonnements. Dieu veut que j'aie les pensées de Christ et pas les pensées du monde et pas les pensées du monde des ténèbres. David n'aurait jamais pu remporter cette victoire sur Goliath s'il n'avait pas remporté des victoires, ses victoires sur le lion et sur l'agneau, sur l'ours, pour sauver l'agneau. Il y a des victoires, il y a des services, il y a un ministère dans lesquels tu ne pourras jamais rentrer. Tu ne pourras y rentrer que si d'abord tu remportes de façon radicale et définitive certains combats. Quel est ton lion ? Quel est ton lion ? Tu ne peux pas te présenter devant Goliath tout nu. Tu ne peux pas te présenter tout nu devant les Philistins. La Bible dit que le péché ne dominera pas sur toi parce que tu n'es pas sous la loi ou dans une religion, mais dans une formidable grâce qui est en Jésus-Christ. En Christ, aucune tentation, quel que soit ton passé, quel que soit le passé des générations précédentes, ne trouve pas d'excuses. aucune tentation n'est plus forte que toi, mais tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est dit quelque part dans l'Épître aux Philippiens. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Le lion t'amuse. Le lion t'amuse. Quel est ton lion? Quel est ton ours? Ok. Alors, voilà. Ensuite, David va être oint roi sur la tribu de Juda. Tout d'abord, un passage dans 1 Samuel 22. Et David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Et ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent là vers lui. Et tout homme qui était dans la détresse ou dans la déprime, et tout homme qui était dans les dettes, et tout homme qui avait de l'amertume dans l'âme, s'assembla vers lui, avec leur famille d'ailleurs, et il fut leur chef, et il y eut avec lui environ 400 hommes. Quand même, quelle équipe, hein ? Voilà. Hein ? Cette caverne d'Adoulam, d'ailleurs, je tiens à préciser que quand nous avons commencé l'église, on a discuté sur comment on allait appeler cette église. Et il a été question un temps de l'appeler la caverne d'Adoulam. Et puis on s'est dit, l'idée est bonne, l'idée est bien, mais quand même, vis-à-vis des médias, tout ça, la caverne d'Adoulam, ça faisait un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire, non ? Hein ? Hein ? Ça fait un peu ? Ouais, un peu, ouais, ouais, ça fait un peu bizarre. Voilà. On n'en dira pas plus. Voilà. En tous les cas, cette caverne d'Adoulam va rassembler des gens dans la détresse, dans l'amertume, dans les dettes, des gens meurtris dans l'âme, rejetés et méprisés. Et David va transformer cette caverne d'Adoulam en centre de soins, en centre de restauration, en centre de rééducation et surtout en centre de formation. Alléluia. De ces gens déprimés, blessés, désorientés, Dieu va en faire les fameux, je cite, hommes forts de David, les fameux héros d'Israël, les fameux hommes vaillants d'Israël, les fameux chefs des armées d'Israël. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit nous équipe comme David, c'est pour bénir et restaurer et équiper nos frères et sœurs pour impacter le monde. Amen. Alléluia. Donc, quelque part, nous sommes une caverne d'Adoulam. Hein, voilà, ok. L'Église est un lieu de soins et de restauration, où Dieu soigne et guérit les gens blessés, découragés et meurtris, pour les faire entrer dans l'appel dans lequel ils sont appelés, pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu, pour qu'ils deviennent des rois, des reines, des sacrificateurs, des ambassadeurs du Dieu vivant, et pour que ses serviteurs et ses servantes de Dieu soient équipés afin de travailler à l'œuvre glorieuse de Dieu, afin qu'ils puissent répandre l'évangile de la gloire de Dieu à travers les nations. L'Église est un lieu d'adoration et d'émerveillement devant Dieu. Alléluia. Je crois que si nous marchons avec Dieu, nous sommes émerveillés devant Dieu et nous sommes toujours émerveillés par l'Église de Jésus-Christ. Ok ? Il y avait un mariage hier. Bon, le marié était beau. Tu trouves le marié superbe. Mais si tu trouves le marié beau, tu trouves peut-être aussi la mariée belle. Quelle idée, hein, de trouver le marié beau et la mariée affreuse, n'est-ce pas ? Si tu aimes Dieu, tu es aussi émerveillé par son Église. Je répète, qui n'est pas parfaite. Mais en ne cherchant pas beaucoup, tu trouveras facilement au moins 10 000 choses extraordinaires et merveilleuses qui sont dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, David va s'appuyer sur ses premières victoires, ses victoires sur le lion, sur l'ours, sur Goliath, pour ensuite continuer à apprendre de Dieu et à multiplier les victoires. David va remporter des victoires pour sa famille, pour ses proches, comme on le disait, puis il va remporter des victoires pour ses amis, pour ses compagnons, ses collaborateurs, pour tous ces gens déstructurés et déglingués de la caverne d'Adoulam pour en faire des champions de Dieu. Et puis de victoire en victoire, son ministère va s'élargir. Il va remporter des victoires sur les Philistins, sur la famille et les partisans de Saül. Ah ouais, alors là, voilà quoi. Hein. Voilà. En tous les cas, David va remporter des victoires sur les Amalekites, sur les Kéniens, sur les Guershuriens, les Guiraziens et sur tant d'autres. Fidèle dans ce que Dieu lui demande, David va alors voir son ministère s'étendre et prendre une nouvelle dimension. Et je vous ai mis ce verset. Et les hommes de Juda vinrent et voignirent là David pour roi sur la maison de Juda. Donc David va alors rentrer dans, plus loin dans son appel. son ministère, sa royauté va s'élargir à la tribu de Juda. Ce n'est pas encore le ministère qui avait été prophétisé par le prophète Samuel. Ça viendra des années plus tard. Mais nous allons de service en service, souvent comme cela dans l'œuvre de Dieu. Nous grandissons de formation en formation, de victoire en victoire. Nous évoluons de ministère en ministère pour arriver enfin au ministère pour lequel Dieu nous a créés et nous a préparés. Ça, c'est vrai de tout le monde. L'apôtre Paul, par exemple, il n'a pas été apôtre du jour au lendemain. Il passe d'un travail dans le témoignage, il témoigne à Damas, etc. Hein? Puis il passe dans un travail d'évangélisation. Ensuite, il rentre dans un vrai service prophétique et ensuite un vrai travail et un vrai ministère d'enseignement et il est nommé comme docteur. Et ensuite, après, à partir d'acte 13, eh bien, il est envoyé dans un ministère apostolique. Vous voyez, les choses se font et on apprend, on est formé, puis on apprend à remporter des batailles et bataille sur bataille. Hein? D'accord ? Donc, voilà. Et si tu penses que tu as un appel de Dieu sur ta vie, quel est ton lion ? Quel est ton ours ? Quel est ton Goliath ? Quel est ton Philistin ? Alléluia. Hein? Et c'est grâce à ces victoires, donc, sur le lion, sur l'ours, sur Goliath, sur les Philistins, sur la famille de Saül, etc., etc., et sur tant d'autres, que David va pouvoir ensuite voir encore son ministère s'élargir, donc sur toute la tribu de Juda, et ensuite sur tout Israël. Ok, alors, nous lisons dans 2 Samuel 5, et tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour un roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Il régna à Hébron sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. David va donc devenir roi sur tout Israël. Il va gouverner, organiser toute la nation d'Israël. Son ministère donc va s'élargir. Il va entrer pleinement dans son appel, comme lui avait prophétisé donc Samuel des années plus tôt. David va remporter de nouvelles et nombreuses victoires contre les Philistins, encore et encore, contre les Ammonites, contre les Édomites, contre les Moabites et contre tant d'autres. Durant ces batailles et ces combats, David va apprendre à écouter Dieu, il va se muscler spirituellement, il va apprendre à écouter le Saint-Esprit. Comme par exemple, on ne va pas parler de ça, mais je cite simplement ça, comme lorsque Dieu lui montre de prendre soin de Méphisboschète, un fils de Saül qui était un fils handicapé, qu'il va faire manger à sa table. Hein? Comme lorsque Dieu lui donne un plan de bataille contre les Philistins, où lui dit, attends, pour te lancer dans la bataille, tu dois d'abord ouvrir tes oreilles et tu dois entendre le bruit des pas des anges sur les mûriers. Quand tu entendras le bruit des pas sur les mûriers, tu pourras te lancer. D'accord ? Voilà. Hein ? Ou lorsque Dieu lui demande de réparer les trahisons et les mensonges de Saül par rapport aux Gabaonites, et cela afin d'arrêter une famine de trois ans sur le pays, et le pays va retrouver sa prospérité suite à l'intervention donc, de David. David aussi, homme selon le cœur de Dieu, apprend ce qu'est une vraie et profonde repentance. Lorsqu'il a dérapé et mis en danger tout le peuple d'Israël, par exemple, avec son histoire de péché avec Bathsheba. David, quand même, hein ? Ou bien, suite à son péché d'orgueil, concernant un dénombrement de la population d'Israël, David apprend à écouter Dieu pour arrêter la peste qui sévit en Israël et pour bâtir un autel sur l'aire d'Arona, sur un endroit au centre de Jérusalem qui deviendra après l'esplanade du Temple. David apprend ce qu'est une sincère repentance et il apprend à écouter la voix de Dieu et il apprend à reconstruire selon Dieu. Mais David sait construire et il sait construire avec Dieu. Il sait imprégner et couvrir toute la société en Israël de louanges et d'adorations envers Dieu, leur offrant des psaumes et des cantiques faisant et inventant lui-même des instruments de musique et établissant dans Jérusalem le fameux tabernacle de David. Ainsi, je crois que je vous mets un petit quelque chose là, je ne sais pas, oui. Ainsi, dans le tabernacle de David, une simple tente au cœur de Jérusalem, il y avait 4000 hommes, tous des Lévites, mis à part pour le service de Dieu, choisis par le roi, par les prophètes, par les chefs de l'armée, par le Saint-Esprit, bien sûr. 5000 hommes, tous les jours, jour et nuit, ils se relayaient jour et nuit dans la louange et l'adoration, et cela en toutes circonstances. Ces gens-là posaient sur Jérusalem et sur toute la nation d'Israël une magnifique présence de Dieu. On leur disait pas, mais qu'est-ce que vous passez tant dans cette tente à brailler toute la nuit? 4000 hommes, jour et nuit, tout le temps. Chanter. Bonjour la sono, hein. Tout Jérusalem et la banlieue étaient imbibés de ces chants, et cela posait une reconnaissance envers Dieu et une présence de Dieu dans tout Jérusalem et spirituellement dans tout le pays d'Israël. Alléluia. Alléluia. Je vous ai mis ce verset où David dit « Et 4000 qui louaient l'Éternel avec les instruments que j'ai fait, dit David, pour louer Dieu. » Alléluia. Et puis le dernier point, David reçoit une onction pour l'évangélisation des nations. David va recevoir une onction de révélation où Dieu lui révèle dans les détails la construction, les plans du temple. David dit « La main de l'Éternel sur moi ». C'est une façon de parler de l'onction du Saint-Esprit, hein. Je vous ai mis ce passage de 1 Chronique 28. « Tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. » Comprenez, une onction particulière du Saint-Esprit qui vient sur lui. C'est un ministère plus large, j'allais dire, que d'être roi d'Israël. C'est un ministère plus large que celui du tabernacle. David reçoit la révélation du temple, lieu d'adoration et de louange, mais aussi, avec son parvis, lieu d'adoration et de louange pour recevoir les gens des nations. En fait, David reçoit la vision pour l'évangélisation des nations, pour la bénédiction des nations, pour l'évangélisation du monde. David va tout préparer en matériel. Tous les bois précieux, les métaux, les pierres, les tissus, l'or, l'argent, les pierres précieuses et plein d'autres choses pour que Salomon puisse construire ce fameux temple. C'est tout David qui a tout préparé et il lui a donné tous les plans que Dieu lui avait donnés par révélation. Dans ce temple, sur son parvis, je parle du temple de Salomon, pas du temple d'Hérode après, hein, dans ce temple, sur son parvis, de l'ensemble du monde antique d'alors, vont affluer des foules de personnes recherchant la présence du Dieu trois fois saint. Le temple était censé être, je cite, une maison de prière pour tous les peuples. Une maison où des personnes de tous les peuples, adorant et louant Dieu, se réjouissaient dans la présence de Dieu. C'est le verset d'Ésaïe qui parle maison de prière pour tous les peuples et de se réjouir devant Dieu. C'est le même verset. L'Église, c'est une maison de prière, de louange et d'adoration pour tous les peuples. L'Église, c'est une famille joyeuse, émerveillée par un Dieu trinitaire, formidable et magnifique. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes censés tous travailler à cela, à louer, à apprécier, à adorer joyeusement Dieu et à élever Dieu aux yeux des nations. C'est l'évangélisation. Mais l'évangélisation, ce n'est pas simplement distribuer un évangile dans la rue, hein. Je l'ai fait. Il n'y a personne qui a été autant souvent dans la rue que moi, je crois, ici, pour annoncer l'évangile, hein. Mais je peux vous dire que d'abord, annoncer l'évangile, c'est élever la notion du Dieu vivant aux yeux des nations. Quand les gens voient des chrétiens, voient l'Église de Jésus-Christ dans l'état, le bon état où Dieu veut que nous soyons, c'est ça qui attire et qui aspire et qui convainc le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes censés tous travailler à cela, à louer, à apprécier, adorer joyeusement Dieu et élever Dieu aux yeux des nations, tout en nous aimant les uns les autres et en nous encourageant les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On termine par un temps de prière. Je vous propose simplement de vous mettre debout. Pour ceux qui veulent, il pourra y avoir des temps de prière avec des équipes. Hein. Mais j'aimerais remettre l'accent. Il y a des choses, ce n'est pas une imposition de main ou une prophétie qui va changer ce que tu sais déjà. La question c'est, quel est ton lion ? Est-ce que tu es habitué à manger avec ton lion ? À caresser ton lion dans le sens du poil ? Rassure-toi, un jour viendra où ton lion te dévorera. Mais Dieu te demande, quel est ton lion ? Et tu peux vaincre le lion et vaincre l'ours. Goliath te paraîtra tout petit et tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, et tu pourras rentrer dans le service que Dieu a préparé pour toi. Que Dieu te bénisse. Adore Dieu. Dévore le lion et sois émerveillé par Dieu. Aime son Église, aime le troupeau de Dieu. Amen.